En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
On essaye tous de jouer comme lui, plein de notes. Lui, il pouvait courir sur le manche, mais il savait marcher avant de courir.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Après Django, c'était un miracle de le voir jouer, quoi. C'était un prodige, un surdoué de la guitare.
RTL.
C'était la mâchoire vous tombait, quoi. Il faisait, voilà, c'était le joueur de flutio qui vous charme et vous le suiviez n'importe où, quoi.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est un film porté par le génie d'un musicien hors norme, Django, avec Reda Kateb et Cécile de France, évoque une époque de la vie du guitariste, la Seconde Guerre mondiale. On vous raconte tout le reste sur RTL avec l'écrivain Noël Balin. On écoutait, là, on entendait la voix de Thomas Dutronc.
Ouais.
C'est un peu un héritier de Django, et je dis ça
Ah, complètement,
sans comparaison, quoi, évidemment.
Oui, non, bien sûr, de toute façon, personne n'est l'héritier.
On ne peut pas se comparer à Django Reinhardt.
Oui, c'est au-delà du monarque, quoi. Il y a un peu l'idée un peu divine du personnage. Ouais. Et oui, mais Thomas Dutronc, c'est vraiment sincère. Je pense même que son père lui avait offert une guitare ayant été jouée par Django Reinhardt. Donc il l'idolâtre, mais avec intelligence, il connaît bien cette histoire. Et surtout, ce que j'aime bien chez Thomas Dutronc, justement, c'est cette idée que, bon, il est un chanteur de variété, connu, issu d'un milieu qui lui a permis d'accéder à la musique, mais il reste d'une humilité impressionnante face aux très très grands instrumentistes.
Alors cette histoire qu'on va raconter, c'est donc celle de Jean Reinhardt, dit Django. Il est né le 23 janvier 1910 en Belgique,
ouais,
à Librechy. Alors c'est un hasard de la vie de nomade ou sa famille s'était un peu basée à cet endroit?
Ils avaient pour habitude de s'y rendre l'hiver. Donc ils utilisaient les subterfuges parce qu'ils n'avaient pas le droit de séjourner plus de tant de jours sur une commune. Et comme c'était un point d'intersection de trois communes, il leur suffisait de changer la roulotte d'une commune à l'autre tous les deux, trois jours.
Ils faisaient faire 2-3 mètres à la roulotte.
Absolument.
Et étaient sur
oui,
une
c'est
autre
ça.
Commune.
Ouais, c'est drôle. Voilà, donc ils s'installaient là, ils vivaient de vanneries, de petits métiers. Et puis quand il est né, tout le village de Librechy a fêté la naissance de Petit Manouche parce que finalement ils étaient assez intégrés à la population.
Et il a beaucoup crié, d'où son surnom,
voilà.
Django, qui veut dire qui réveille.
Je réveille.
Je réveille.
Je réveille. Oui. Il y a
moi,
vraiment, voilà,
je
c'est
réveille.
Ça.
Oui, en plus.
Ouais.
La
musique, c'est une grande tradition de Tigane. Est-ce que Django naît dans cette ambiance musicale?
Oui. Son père joue du violon, un peu de guitare, mandoline. Enfin bon, en général, il joue au café, aux brasseries du coin. Et puis le gamin très tôt, lui et son frère aussi, Joseph, ils sont presque nés avec la guitare. Voilà, c'est en sortant de l'œuf. Et puis en même temps, c'est une musique qu'on écoute dans le ventre de sa mère. Donc finalement, on est totalement immergé.
Donc il n'y a même presque pas de transmission. C'est le cordon ombilical qui a
voilà,
fait l'affaire.
Je pense que le cordon ombilical joue beaucoup.
Ouais. Son père lui a appris un peu quand même à jouer du violon, par exemple. C'est le premier instrument. Est-ce que c'est le premier instrument?
Oui, il en joue. D'ailleurs, même il y a une ou deux pièces enregistrées au violon, plus tard, quand il est devenu le célèbre guitariste que l'on sait. Donc, ça ne l'a jamais abandonné. Il y a une très jolie photo, il joue pour son fils aussi. Donc, le violon fait partie, c'est un des instruments emblématiques des Tigane. Et il fait partie vraiment du panorama familial. Et puis aussi, au-delà de la cellule même, il y a les cousins, les oncles, tout le monde joue un peu de tout, en fait.
Il grandit, Django Reinhardt, élevé par ses deux parents, dans un univers apaisé.
Oui, enfin, apaiser la vie n'est pas simple non plus, mais à un moment donné, ils partent en Algérie aussi, pendant la Première Guerre mondiale, et puis le père ne rentre pas, enfin bon, le couple se sépare, il revient avec sa mère et ils échouent, et je pense que le terme vraiment est exact, ils échouent vraiment. La roulotte, c'est vraiment une barque posée sur la plage, et c'est au pied des fortifs de Paris, dans la zone Porte de Choisy.
Et il n'y a pas d'école pour les frères Reinhardt.
Ah non, il n'y a rien du tout, et ce qui explique d'ailleurs l'illettrisme de Django Reinhardt.
Donc ça, c'est la prime jeunesse, hein, puisqu'il est né en 1910, donc c'est vraiment un petit garçon.
Oui.
Quand ils reviennent après la guerre, c'est ça,
oui,
à Paris, du côté de la Porte de Choisy, Porte d'Italie.
Oui.
Il a quoi? Il a un frère, Joseph.
Joseph.
C'est tout,
voilà.
Ou d'autres frères et sœurs?
Joseph, que l'on sache qu'il a... Le pauvre Joseph, c'est un très très bon guitariste, et ça on oublie de le dire, mais il ne sera que la doublure de son prestigieux aîné, parce que il était tellement indépassable par toute la communauté, s'est très très vite rendu compte que ce môme était un surdoué, quelqu'un d'exceptionnel, avec une mémoire fabuleuse, une capacité à reproduire à l'instinct. Donc il a été toute sa vie effacé, il est devenu le guitariste rythmique, celui qui est au deuxième rang. Voilà.
Mais il a toujours joué avec lui, il l'a toujours accompagné.
Il a eu aussi des groupes à lui, il a même fait des disques sous son nom, mais il n'était que Joseph.
Noël Balin, dans votre livre Django le génie, vagabond, aux éditions du Rocher, on apprend que son premier instrument, le premier instrument qui lui a été offert à l'âge de 12 ans, c'est un banjo guitare. Il apprend vite ?
Il apprend de façon très naturelle. Vous savez, on lui aurait donné une trompette, je pense qu'il devenait le meilleur trompettiste du siècle. Donc, il y a des gens qui sont musique, intégralement musique. Ouais. Et il apprend très vite.
Il a un maître ?
Oui, il y en a plusieurs. Alors, il y a aussi un autre instrument qui est la bandouria, qui est très important.
C'est quoi la bandouria ?
C'est une sorte de luth à 12 cordes. Enfin, c'est des 6 cordes doublées. Ouais. Ça date du 15e siècle à peu près. Et c'est un luth espagnol que l'on retrouve dans certaines musiques caribéennes, hispaniques. Et que le guitariste de Yes joue d'ailleurs. Sur scène, il l'emploie. Ouais.
Il y avait Django et lui, quoi.
Voilà. Et donc, la mandouria, c'est un très bel instrument qui est utilisé par tous les musiciens traditionnels. Quoi.
Et son maître s'appelle Poulette Castro, c'est ça ?
Ah, Poulette Castro, c'est ça. Bon, Poulette, vous imaginez bien que c'est un surnom. Voilà.
C'est joli pour une fille, Poulette.
Moi, je trouve ça pas mal. Et pour le coup, c'est un garçon.
En plus, voilà. C'est très bien.
Donc, Django Reinhardt, c'est un surdoué, on l'a bien compris, mais est-ce que. Il apprend à lire les notes, le solfège.
Non. De toute sa vie, il n'a jamais su lire une seule note. En revanche, vous faisiez tomber un verre. Il vous disait, il vous la reproduisait instinctivement, comme il y a des gens qui ont l'oreille absolue. Il vous dit ce verre qui tombe, c'est un fa dièse. Donc, c'est des gens comme ça qui sont impressionnants.
Mais Noël Balin, il a composé des musiques magnifiques. Qui les écrivait ? Qui faisait les partitions ?
Il y a toujours un musicien, un pianiste, un copain qui note la partition. L'éditeur qui signe évidemment le contrat de publishing du titre. Mm-hmm. Parce qu'après, il y a une carrière qui s'institutionnalise et qui devient vraiment calibrée. Donc, il y a des gens qui notent. L'oreille aussi, les partitions.
Vous rappelez, on avait raconté l'histoire de Beethoven qui était sourd et qui continuait de composer
dans sa tête.
Ce qui est incroyable.
D'ailleurs, à ce sujet, on va vite, on n'est pas du tout à cette époque-là, mais quand il devient vraiment un musicien consacré, il décide d'écrire une messe qui est une messe dédiée au Sainte-Marie de la Mer, une patronne des Tziganes, des Gitans. Mm-hmm. Et il écrit vraiment la messe de façon symphonique. C'est-à-dire qu'il écrit pour hautbois, violoncelle, violon. Mais là, il trouve un organiste, clavieriste brillantissime, qui est Léo Choliac. Donc, il se met à l'orgue et Django lui joue les notes. Il lui joue toutes les parties, c'est-à-dire le score complet de toute la symphonique. Et il a tout dans la tête et tout est harmonisé à la perfection.
En disant, ça, c'est pour tel instrument, ça, c'est pour tel.
Et là, il y a le contrepoint, puis j'entends que la contrebasse doit faire ça. Enfin, le pupitre de contrebasse. Mmh. Mais dans le pupitre de contrebasse, il joue ça, c'est-à-dire qu'il vous fait la tierce, la quinte. Et tout est dans sa tête. Et quand vous le faites jouer, c'est parfait.
Ouais. D'ailleurs, dans le film, c'est en partie raconté. Il l'a composé, alors je ne sais pas si c'est une partie fictionnée ou réelle, il l'a composé pendant la Seconde Guerre mondiale, cette messe ?
Non, pas particulièrement. C'est une pièce qui a été embryonnaire et puis qui s'est développée. Ça a été un peu complexe.
Alors, le 20 juin 1928, Django a 18 ans. Il se retrouve en studio avec un accordéoniste, Jean Vessade. C'est son premier titre gravé. Voilà, c'est un témoignage. Il va se faire particulièrement remarquer sur ce titre parce que l'enregistreur a placé le micro plus près de la guitare que de l'accordéon. Donc ce sera un petit coup de pouce du destin. On va vous raconter tout de suite comment Django a découvert le jazz.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
Tout de suite, dans la curiosité avec notre invité Noël Balin qui publie Django Reinhardt, le génie vagabond, tout un programme, c'est aux éditions du Rocher. Django, dont le nom sera souvent écorché sur ses premiers disques, par exemple pour Cet amour de gitane. On est toujours à la fin des années 20, Noël Balin. Django a 18 ans, à peine. Et alors, son nom est orthographié n'importe comment.
Oui, c'est vraiment n'importe quoi, oui.
Dites-nous, épelé.
Il y a un Django, je crois. Oui.
Il y a un Django Reinhardt.
Renard. Ouais. Bah parce que, si vous voulez, à l'époque, il y a un archaïsme. Là, vous nous sortez des pièces d'archéologie. Hein. Ouais. Et alors, on fonctionne de façon très curieuse. Les studios d'enregistrement sont tenus par des vieux messieurs en blouse grise. On n'est pas du tout dans la branchitude du show business. Hein. Et donc, ils sont dans des hangars la plupart du temps. Ils enregistrent avec des gros pavillons, des enregistrements à fil. Et on donne son nom et c'est noté à l'oral. comme les anciens états civils dans les paroisses. Quoi.
Il y a un Django. Oui. J-E-A-N-G-O-T.
Absolument, par absolument. Oui. Ça, c'est
j'imagine
drôle.
Que ça vaut de l'or Jean d'avoir ce genre de disque aujourd'hui.
Oui, les acétates, les 78 tours, c'est assez marrant. Alors, ces pièces, elles sont intéressantes parce qu'ils jouent du banjo-guitare. Ouais. Pour l'essentiel, ils jouent pas du tout de guitare encore. Et c'est une sorte d'instrument hybride, mi-banjo, mi-guitare. En fait, c'est un banjo à six cordes. Et il se révèle être un tricoteur de cordes. Et à l'instinct, il vous fait tous les contrechamps, il reprend le thème. Ce qui fait que les accordéonistes d'origine aveyronnaise ou italienne, qui tiennent le haut du pavé à Paris, le repèrent immédiatement et puis se le gardent jalousement. Mm-hmm. Il fait des terrasses de bistrot, il fait quelques clubs, des bars, des balles aussi.
Donc c'est celui qui accompagne au début, Django.
Oui, absolument. Ouais.
Mais il se fait un nom petit à petit.
Et pour le coup,
certain...
il prend la parole aussi. Il se fait un nom parce qu'il prend la parole, il leur coupe la parole. Certains le voient d'un mauvais œil. Ils se disent.
C'est-à-dire quoi, il leur coupe la parole avec son instrument ou...
Évidemment. Ouais, vous avez l'accordéoniste qui est roi, qui est, vous savez, ouais. C'est le piano du pauvre, mais ils ont des égos surdimensionnés, les accordéonistes. Mmh. Et alors, lui, il est derrière, et puis il ne peut pas s'empêcher de mettre une trille, une phrase, de répondre. Et c'est une façon de couper la parole qui fait que ce petit jeune se fait remarquer au-delà de la musique. Il y a quand même une personnalité qui s'affirme.
C'est un beau garçon, Django Reinhardt.
Oui. Oui, vraiment, sorte de des yeux de gazelle un peu. Et puis après, il sera dandy, il aimera bien s'habiller. Voilà. Alors, c'est la beauté d'une époque, moi, je pense assez éternelle, parce qu'il a ce côté Clark Gable, un peu, qui fonctionnerait, je pense, encore aujourd'hui.
Je valide.
Qui lui signe son premier contrat? Un certain Jack Hilton, c'est ça?
Alors, Jack Hilton, c'est une grosse machinerie ferraillante à swing anglaise.
Ouais.
Et Jack Hilton est un musicien qui joue, je crois, au Théâtre des Champs-Élysées, un truc comme ça, à Paris. Mm-hmm. Et il entend parler de Django Reinhardt et on lui dit va voir ce petit jeune, ça mérite. Et il va dans un petit club qui s'appelle La Java. Effectivement, il est médusé et il l'embauche aussitôt pour une tournée en Angleterre et puis même je crois qu'ils avaient des projets au-delà. Et ça a été pour Django Reinhardt la première... C'est-à-dire que voilà, pour la première fois, il réalisait qu'il pouvait faire quelque chose. Que ça ne se cantonnait pas aux terrasses, aux petits bals, à la zone de choisi.
C'est de l'ambition qui commence à naître, peut-être.
Ouais. Quelque chose qui d'ailleurs l'émeut énormément, le perturbe. Et il a le sentiment réel vraiment enfin d'accéder.
Et c'est à cette époque qu'un drame aurait pu mettre fin à sa carrière, la carrière de Django Reinhardt. Que lui arrive-t-il le 26 octobre 1928 dans sa roulotte?
Alors c'est une histoire qui est désormais connue, ça fait partie de la légende, mais c'est un fait historique. Quoi. C'est-à-dire que sa femme de l'époque, qui s'appelait Bella, va vendre on est à la période de la Toussaint, va vendre des fleurs en acétate dans les cimetières. Et puis il y a les bouquets qui sont dans la roulotte, une bougie se renverse quand il rentre le soir, le feu prend immédiatement, sa femme a réussi à partir, lui il reste coincé, son bras, sa jambe sont brûlés, il se roule par terre, on éteint le feu et puis on s'aperçoit qu'il est brûlé très grièvement. Et donc là, il ne part pas avec Jack Hilton pour le coup, donc voilà, ça compromet son début de carrière. Ouais. Et puis il se retrouve un an et demi, 18 mois à l'hôpital. Oh. Et là réellement ce sont des douleurs atroces.
Il a failli être amputé, non?
Oui, absolument. C'était la solution envisagée par les médecins. On est à une autre époque, bien sûr, de la médecine. Et on n'y allait pas de main morte. Hein.
Et sa main gauche, ça ne sera plus jamais la même. Pourquoi?
Oui. Ben, les deux doigts sont complètement brûlés et nécrosés. C'est-à-dire, on parle de l'annulaire et de l'auriculaire. Il ne lui reste que l'index et le majeur. Et le pouce, bien sûr, pour faire la pince.
Il en fait une force, Django Reinhardt, de cet handicap?
Oui, grâce à son frère, pour le coup. Joseph lui apporte une guitare. Donc, on n'est plus dans la bandouria et le banjo-guitare. Et on est vraiment avec une vraie guitare six cordes. Et sur le lit de douleur, et ben il apprend à jouer. Et il apprend à jouer avec ce qu'il avait déjà comme base. Et puis avec son oreille fabuleuse. De toute façon, je pense qu'il devait certainement entendre les oiseaux dans la cour de l'hôpital et reproduire les chants des oiseaux.
On aurait aimé être infirmier ou presque malade dans cet hôpital.
Je crois que ce sont des moments de grâce pour le coup. Oui, vraiment, je suis d'accord avec vous. Il y a des moments de grâce comme ça qui mériteraient presque d'être transposés au cinéma.
Il en est où de sa vie personnelle? Il est marié, donc il a des enfants déjà?
Il a un garçon. Oui, il a un garçon.
À moins de 20 ans, il a eu un garçon, c'est ça? Il est tout jeune, oui.
Ouais.
Il s'en occupe?
Lui, non, pas tellement. Mmh. Il est préoccupé, c'est sa femme hein, vraiment qui s'en occupe. Alors, ils se sont mariés à la Mojitane, c'est-à-dire qu'il suffit de kidnapper sa promise pendant quelques jours, de revenir au bout d'une semaine et on considère que vous êtes mariés. Donc, cet enfant est élevé par sa mère principalement.
En 1934, on passe quelques étapes hein, forcément.
Oui.
Il y a un producteur qui va fonder le quintet du Hot Club de France. Avec Django Reinhardt, il y a un certain Stéphane Grappelli. Reinhardt Grappelli, ça donne ça.
même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce qui m'a fasciné dans cette musique, c'est que ce soit un truc virtuose, mais simple en même temps. Enfin, tu vois, c'est genre on prend une gratte et puis on joue, et puis tout de suite le sourire vient aux lèvres de ceux qui jouent comme de ceux qui écoutent.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Les grands guitaristes de swing sont des grands jazzmen. Ils jouent avec le sourire. On joue et puis quand on en a marre, on s'arrête.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Django, c'est l'inventeur de la world quand même. C'est lui qui a mélangé les gammes tzigane avec le jazz. Donc, premier mélange, première fusion. C'est une musique complètement moderne avant l'heure, quoi.
Les curieux sont sur RTL.
Django Reinhardt qui fait rêver, vous l'entendez, les musiciens d'aujourd'hui comme San Severino. Django, ce nom qui sonne comme un accord magique, une promesse de notes de guitare qui s'envolent de plus en plus rapide. On vous raconte ce grand destin comme on les aime dans la curiosité sur RTL avec l'écrivain Noël Balin qui publie Django Reinhardt, le génie vagabond. Quel joli titre. C'est aux éditions du Rocher. Alors on a entendu juste avant la pause, le duo... Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, qui en fait est un quintet,
oui.
Qui n'a pas tout à fait, on va être précis hein, pour ceux qui connaissent très bien cette histoire, était le créateur du Hot Club de France, c'est ça, du quintet du Hot Club de France?
Oui, le Hot Club de France, c'est une sorte de, voilà, de cercle d'aficionados. Mmh. Il y a plusieurs cellules dans toute la France, voilà, plusieurs clubs. Mmh. Et à Nourri, dont vous avez parlé, à juste titre, qui leur a filé un coup de main. Mais la rencontre s'est passée pas loin d'ici, à l'hôtel de Claridge, et ils se sont rencontrés dans les loges. Grappelli changeait une corde de violon, il essaye de l'accord et voilà, ils jouaient pas du tout ensemble. Hein, et chacun faisait son gig ou quoi, dans un thé dansant, vous voyez, le dimanche après-midi. Et Reinhardt lui répond automatiquement, le dialogue s'installe et c'est comme ça qu'est né vraiment.
Ils se répondent en musique.
Groupe. Oui, complètement, oui.
Leur premier dialogue, c'est de la musique, en fait.
Ils s'étaient croisés, mais ils ne s'appréciaient pas plus que ça. Mm-hmm. Et ça s'est passé comme ça dans les loges du Claridge. Ouais. Et donc, du coup, le quintet naît. Alors, Nourri leur file un coup de main, mais il y a un personnage très important qui est Delaunay.
Charles Delaunay,
qui, voilà, qui est le fils de Sonia et Robert Delaunay, les plasticiens. Et qui, lui, alors, bon, c'est un fils de bourgeois artiste éclairé. Et il met de l'argent. Et puis, surtout, il se démène. Et toute sa vie, il se comportera avec énormément de classe. Ce qui fait que Django a eu beaucoup de chance tout le long de sa carrière, à son existence, et la rencontre de Delaunay a été fondamentale.
Oui, parce que c'était pas simple d'être le producteur de Django Reinhardt.
C'est un enfer, vous voulez dire.
Il était tout le temps à la boue, en retard.
C'est le genre d'artiste que l'on rêve de ne pas signer. Ouais. Et en même temps, si on l'a pas signé, on a raté sa carrière de producteur. C'est donc ça impressionnant. Ouais. Oui, il est rarement à l'heure. Ouais. Il faut toujours le tenir à la culotte. Ouais.
Allez, on écoute un autre extrait de ce quintet du Hot Club de France, par exemple avec ce titre Parfum.
Noël Balin, comment il fonctionne ce quintet? Est-ce qu'il y a un leader?
Oui, c'est Django, naturellement.
Ah oui.
Personne ne conteste. Alors, la difficulté, c'est qu'il y a deux voix concertantes. C'est-à-dire que Grappelli, un rôle fondamental, c'est un type très élégant, très doué. Ils sont issus de milieux radicalement opposés, quoique de milieux modestes. Grappelli a souffert aussi dans sa jeunesse, un orphelin, etc. Mais il n'empêche que leur conception et de la vie et de la musique est un peu différente. Mais la puissance créative de Django est exceptionnelle. Donc il s'impose sans chercher non plus à lui faire de l'ombre. Hein. Il arrive, dès qu'il commence à jouer ou à proposer un titre, c'est dévastateur, il prend tout l'espace.
Ouais. Et du coup, il prend le plus gros cachet aussi?
Alors, ils prennent souvent un cachet égal.
Ouais.
C'était 53 à l'époque. Mais en revanche, il a quelque chose d'exceptionnel, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il prend 5% sur les droits, sur les royalties, sur les ventes de disques, sur les concerts, etc.
Et ça, c'était un,
ça n'existe pas.
Un des rares, voire le seul.
Oui,
à
bah, vous savez, si Billie Holiday avait touché des royalties sur ses disques, elle aurait eu peut-être une autre vie.
Ouais. Ce quintet du Hot Club de France, il va se produire un peu partout avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Ça va être des stars.
Oui, ils vont écumer toute l'Europe, quoi. La Belgique les a vraiment bien accueillis. Bon, ils vont jouer à Zurich, Barcelone. Enfin bon, c'est une carrière qui se développe essentiellement sur scène. Les disques se vendent bien, mais on n'est pas du tout dans les chiffres qu'on connaîtra après-guerre.
Il y a la radio déjà qui peut booster une carrière.
Oui, pour le coup, la radio, c'est vraiment
le média majeur.
Ouais. Je pense que c'est le média vraiment du XXe siècle, avant la télévision.
Ouais.
Et ça, même aux États-Unis, on disait coast to coast, c'est-à-dire de la côte est à la côte ouest. Il y avait cette radio. Après, il y a eu les jukebox, etc. Mais là, vraiment, Mais il y avait des émissions en direct.
Oui, alors la BBC qui envoie ses techniciens à Paris pour les enregistrer, la radio CBS, donc ça c'est une radio américaine, CBS, qui fait un direct.
Oui, complètement. Avec dans des conditions, vous imaginez,
techniques. Avec le quintet, c'est génial.
Ouais,
ouais. On est dans les années 30.
Oui, ouais. Non, c'est invraisemblable. Mais il faut rappeler aussi que Django Reinhardt accompagnait des chanteurs. Il a accompagné Jean Sablon. Donc, ils avaient avec eux un artiste, un accompagnateur de luxe. Il a accompagné Charles Trenet. Alors, Jean Sablon, je disais, très important. Germaine, etc. Damien, même. Donc, des chanteurs qui ont disparu. Certains ne méritaient pas Django Reinhardt.
Mais les accompagner alors qu'il était une star.
Oui, il faisait le métier. Il faut manger. Alors, on le présente comme un personnage un peu fantasque, nonchalant. Mais moi, ce dont je me suis aperçu en ayant écouté absolument tout, c'est qu'il a énormément travaillé.
C'était un gars sympa, Django Reinhardt.
Écoutez, ouais, il y a une chanson de Yves Montand qui, quand il est mort, qui était mon pote le gitan. Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit mon pote, mais à condition d'aller jouer au billard, de taper le carton. Si vous voulez, c'était un type de... Comment dire ?
C'était la musique qui comptait pour lui.
C'est pour les loisirs, quoi. Parce qu'après, ouais, il est vraiment marié qu'avec la musique, essentiellement. Même pour sa femme, ça a été un peu l'enfer.
Alors, vous racontez toute cette histoire dans ce livre, Django Reinhardt, le génie vagabond aux éditions du Rocher. Tiens, par exemple, Mars 36, il va faire une pige chez les collégiens de Reventura, le temps de graver ce titre.
Si le travail vous excède, si votre ardeur devient tiède, gaiement allez-y d'un petit air. Quand votre esprit est morose, chantez, fait voir tout en rose, car la musique adoucit les nerfs.
Alors on l'attendait ce refrain, sifflé en travaillant, c'est les sept nains de Disney.
Ouais,
c'est la même musique.
Disney, ouais. Absolument. Bah là, vous voyez quand je parlais de ses accompagnements de chanteurs, etc. Oui, il fait
c'est
des
qui les collégiens de Reventura. C'était un groupe.
Reventura, c'était l'oncle de Sacha Distel.
Oui.
D'ailleurs, il a commencé là. Sacha
Et les collégiens, c'était le nom de son.
Oui, c'est le nom du groupe. D'accord. Oui, c'était j'aime les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Enfin, ces chansons mythiques. Et donc, c'est le grand orchestre d'entertainment de l'époque. Oui, c'est son moment des vedettes. Bon, il vient, il fait un passage, comme vous dites, il fait sa pige, c'est-à-dire qu'il prend son cachet. Et il n'y a pas du tout de... Il n'a pas, comment dire, de hiérarchisation pour lui de stylistique. Il sait qu'il y a d'énormes musiciens, mais en même temps, il respecte absolument tout le monde. En ce sens, il est sympathique parce que tout le milieu l'apprécie. Mais ses sautes d'humeur, c'est-à-dire ses absences, font qu'il est assez peu fiable, parfois.
On continue de vous raconter la vie de Django Reinhardt, ce qu'il a fait notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Restez avec nous sur RTL.
C'est le destin d'une star, d'un génie vagabond que l'on partage avec vous sur RTL, le destin de Django Reinhardt. Et pour découvrir l'histoire de ce génie de la musique, nous sommes en compagnie de l'écrivain et musicien Noël Balin. Django Reinhardt, on raconte sa vie depuis le début. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est une immense star. Que va-t-il faire pendant la guerre? Il continue de jouer et il joue pour qui?
Ben, il va être une star toujours plus glorifiée, à tel point que quand l'occupant arrive à Paris... les Allemands sont fans. Déjà, dans l'entre-deux-guerres, il a déjà une vraie carrière en Allemagne. Et donc, on se retrouve avec des officiers allemands qui ne sont pas des nazis, mais des officiers de l'armée régulière qui le protègent. La Staffel, quand elle s'installe, bien sûr, il est zigane, il est en première ligne.
Et les ziganes étaient.
Non, il n'est pas inquiété. Comme absolument.
Et lui, ça l'inquiète ? Il y a un dilemme ?
Alors, c'est là que le personnage est tout aussi lunaire. C'est qu'il traverse ça sans se soucier. Il est avec ses cousins, il a un appartement, il joue tous les soirs, il continue d'enregistrer. Il gagne plus que bien sa vie, il claque tout. Enfin, tout roule pour lui. Jusqu'au moment où les autorités allemandes lui demandent d'aller faire un concert en Allemagne. Et là, on lui dit, tu sais, là-bas, ce sera différent. Il est possible que tu rentres pas. Et là, il prend peur. Sa femme est enceinte. C'est la deuxième femme, Nagin. Et il décide de fuir en Savoie, enfin à Thonon-les-Bains. Et il décide de partir en Suisse. Voilà. Il arrive là-bas. Sa première traversée de la frontière est un échec. Il est reconduit. Une deuxième aussi ne se passe pas mieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il est recueilli par un paysan. Et puis, il rentre à Paris, finalement, en se disant que c'est un vrai fiasco. Parce que quand les Suisses le raccompagnent à la frontière, il n'est pas juif, donc il ne peut pas justifier de l'accueil. Il n'est pas exilé politique, il est français. Donc, rentre chez toi. Ouais. C'est très compliqué. Et en rentrant, il est toujours aussi protégé.
Quand il revient à Paris, alors on va passer une étape, après la libération, il y a une bonne surprise, c'est que c'est aussi une star pour les GIs. C'est-à-dire qu'ils veulent entendre Django.
C'est la même chose qu'avec les occupants allemands. Quand les GIs arrivent, ils veulent, mais ils courent tout Paris pour où est Django. Ils le cherchent et ils finissent par le trouver. Ils signent des autographes. Il vit de façon tout aussi somptueuse. Voilà, c'est très étonnant. Il joue même dans un. Il y a des enregistrements magnifiques avec un orchestre militaire. Vous savez, ces big bands de l'armée américaine de l'aviation qui sont vraiment géniaux, quoi. Et lui, il traverse toujours ça. Avec une certaine innocence.
Django qui sera l'un des premiers à intégrer le bebop dans ses compositions, par exemple, avec ce titre. Babic, à qui cette composition est dédiée ?
À son fils. Voilà, Nagin, quand il a essayé de partir en Suisse, était enceinte de leur premier garçon. Et Babic est devenu après un grand guitariste lui aussi, que j'ai eu la chance de connaître et même de produire, c'est assez drôle.
C'est son surnom, Babic ?
C'est son prénom.
C'est son prénom, d'accord.
Et il se trouve que le bebop, c'est une musique moderne, explosive, c'est une musique créée par les dynamiteurs que sont Parker Gillespie. Et il est tellement ouvert sur toutes les musiques qu'il l'accueille, il l'intègre et il en fait autre chose encore, c'est-à-dire il fait du Reinhardt. Avec un langage de son époque. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a Hubert Rostin. Alors, on entend un clarinettiste, parce qu'après la guerre, il retrouve Grappelli, qui lui était tombé malade à la déclaration, et est resté pendant les 5 années d'occupation. Il est resté en Angleterre. Il se retrouve à la libération en 1946. Et là, il se retrouve autour d'un morceau qui est « La Marseillaise ». Et c'est un morceau qui sera rebaptisé « Echoes of France », dans la mesure où cette Marseillaise jazzifiée a créé un scandale, c'était un sacrilège, voilà.
Alors on l'a peut-être très rapidement la Marseillaise. Ah oui, elle est présente comme ça en fond. Alors bon, il nous reste 2 minutes malheureusement. Il y a tellement de choses à raconter sur Django. Mais on va raconter les derniers enregistrements. C'est Eddie Barclay qui lui fait enregistrer, c'est ça, si je ne me trompe, huit titres. Et puis il faut forcément écouter un extrait de l'un de ces titres, c'est « Nuages ». Django Reinhardt ne le sait pas encore, ce sera son testament musical en quelque sorte.
Oui, alors ce morceau il existe depuis la guerre, il l'a enregistré. Oui. Voilà. C'est un disque vraiment que je conseille parce que le son est magnifique et propre. Et il est vraiment magnifique parce qu'il n'est même pas daté. Les autres sont datés, ils sont d'une époque. Et on vieillit mais finalement. Mmh. Mais celui-ci, il a quelque chose, il touche la part d'éternité de Django. Mmh. Vraiment, c'est un disque magnifique.
Il disparaît comment, Django Reinhardt ?
Une congestion cérébrale. Il meurt finalement presque surpris de devoir quitter ce monde. Voilà.
Il a quel âge ?
Foudroyé, 44 ans, je crois. C'est ça ?
Oui, ça doit être là.
44 ans.
40, le 16 mai 1953.
Ouais, c'est ça, voilà.
Puisqu'il est né en.
Voilà, quelques mois après. Voilà.
Que fait son épouse dans les jours qui suivent ?
Eh bien, son épouse brûle tous les effets personnels du défunt, tels que l'impose la tradition gitane. Quelques pièces ont été conservées tout de même, 2-3 guitares qui étaient restées à Paris, alors que lui vivait en Seine-et-Marne à Samoa. C'était sa retraite paisible au bord de l'eau à pêcher.
Bon ben voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, on vous propose de jouer dans la curiosité. Alors, une question qui va vous permettre de gagner le très beau livre de Daniel Gaziglia-Laster qui est consacré à Prévert, Paris Prévert, qui est paru chez Gallimard. Et puis aussi un coffret de 3 CD des chansons de ce poète aux productions Jacques Canetti. C'est quoi
alors,
la question ?
La question, quelle chanson écrite par Jacques Prévert a été adaptée plus de 600 fois en français et en anglais?
Hier, vous m'aviez demandé de prendre mon ordi, donc j'ai sorti mon ordi.
Ah, c'est bien.
Donc je note.
Ah, faut que je répète.
Quelle chanson écrite par
Jacques Prévert a été adaptée plus de 600 fois en français et en anglais? Vous n'avez pas le droit de jouer.
Ça y est, c'est noté.
Thomas, vous le savez. Bon, quand vous trouvez la réponse en réécoutant le podcast, par exemple, sur rtl.fr, vous nous envoyez votre réponse sur lacuriosité@rtl.fr.
Voilà, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Donc ce livre Paris Prévert et un coffret de 3 CD. Bonne chance.
Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Éric Jean-Jean et le 100% live. Bon après-midi et à demain, 20h.